deuxième conférence par le père Philippe.
Ce n'est pas du tout une conférence magistrale. Je tiens à le dire. Parce que c'est un sujet tellement difficile, délicat. Et que je ne suis pas compétent pour vous parler de ça. Je dis compétent, j'ai autorité sans compétence. Venez, alors, c'est très grave. D'habitude, quand je parle au point de vue doctrinal, je sais que j'ai un peu de compétence et que l'autorité est là. Mais vous savez qu'il y a deux manières d'exercer l'autorité, sans compétence et avec compétence. Alors, on exerce l'autorité sans compétence quand elle vient d'en haut. On exerce l'autorité avec compétence quand elle vient d'en bas. Tu n'aurais aucune autorité sur moi si je ne t'avais pas donné d'en haut. Parce que Pilate n'avait aucune compétence pour juger Jésus. Aucune. Alors je juge qu'ici, je n'ai pas grande compétence. Bien que de fait, la Providence ait permis, pour certains, heureusement, pour d'autres, malheureusement, mais ça n'a pas d'importance, c'est un fait. D'avoir connu, dégrité au Sauchoir en 1945, même avant, 39. La guerre. Coup de téléphone. De la solitude. Venez nous voir. Indispensable. Puis alors j'ai appris que c'est indispensable parce que j'étais le neveu du père de haut. Et que la fondatrice de la solitude était encore vivante. Comme j'étais le neveu du père de haut, j'avais une auréole. Sans compétence. Pour pouvoir parler à la solitude. C'était une sainte mère. Tout à fait une sainte mère. Toute pourrie en sainteté. Vous voyez, la sainteté qu'elle propose. Quelque chose d'assez beau, d'extraordinaire. C'est comme ça que j'ai connu la solitude. Parce que c'est le père de haut, vous voyez. Quand même intéressant. Puis alors, j'ai connu. J'aurais beaucoup prêché. Parce qu'ils étaient très avides. C'était des contemplatifs qui couraient toujours. Parce qu'elles courent tout le temps. Je ne sais pas ceux qui connaissent la solitude, ça veut dire tout le temps. Toujours très très pressé. Un mouvement perpétuel, merveilleux. Et dans le silence et dans la paix, ça qui est extraordinaire. C'est pas du tout l'agitation. Ça m'avait beaucoup attrayé au début. J'étais des religieuses qui courent tout le temps sans agitation. C'est curieux, d'habitude, quand on court, les gens sont agités. Là non, elles couraient pour faire le plus de choses possible. Sans aucune agitation. C'était très curieux. Une atmosphère très étonnante. C'était beaucoup moins chaud au Carmel. J'ai remarqué que c'était tout à fait différent. Tout à fait autre chose. Et j'ai beaucoup prêché le 20 janvier, là. Parce que c'était la grande fête, le 20 janvier. L'apparition de la Vierge Marie au Père Marie. Qui du reste a quelque chose de merveilleux. Ceux qui ne connaissent pas ça, il faut le dire. Parce que c'est vraiment quelque chose de très étonnant. La Vierge Marie qui intervient directement sur cet homme dur, qui était le frère du Père Alphonse, qui se disait un esprit fort. Et donc, ne voulant rien connaître du christianisme, rien connaître de Dieu, ils ont fait lui dire ce que tu ne pourrais pas porter, ce que tu veux. Tu as un esprit fort, donc ce n'est pas important de porter une médaille. Tu ne pourrais pas porter la petite médaille. Te donne, c'est de la rue du Bac. Et elle a dit oui, c'est pour ne pas dire non. Elle aurait eu l'imbécile de dire non. Donc elle était obligée de dire oui. Et puis 8 jours après, la Sainte Vierge est apparue. Portée de médaille. Et puis 8 jours après, la Sainte Vierge est apparue. Si vous ne pouvez être converti comme ça, parce que c'est quand? Et alors, un beau jour, il y a eu cette personne curieuse qui était Magdalite. C'est vrai, elle pourrait voir qu'on la voit, on est là. Et puis, tout de suite, on repère en elle quelqu'un d'assez extraordinaire. Ça ne peut pas le repérer. Il y a eu un lien très fort. Alors à ce moment-là, elle m'a avoué que le seul père qu'elle pouvait lire, c'était le père du haut. Elle ne savait pas où j'étais le neveu. C'était d'autant plus curieux. Il y a une filiation comme ça, curieuse. Mais c'est pas ça dont il s'agit maintenant. Je vous ai toujours dit, dès le plus point de départ, que la liturgie pour Saint Jean devait se découvrir progressivement, qu'il fallait au moins 10 ans avant de découvrir la liturgie propre à Saint-Jean. Nous ne pouvions pas prendre le grégorien classique de Solesme. Rome ne le voulait pas. T'es curieux, c'est ça. Rome était pour nous une chose très très curieuse. Rome n'a pas voulu qu'on ait de liturgie en latin. T'es très net, je vais demander. Parce que moi, je l'aurais pris facilement. C'était celle que je connaissais. Rome m'a simplement dit. Et c'était. Le cardinal, à ce moment-là, il n'était pas cardinal. Maillère qui m'a dit ça. Il m'a dit, au fond, ce que l'Esprit Saint réclame de Saint Jean, c'est la doctrine. Il ne me connaissait pas beaucoup, mais quand même très vite, parce que c'était. Bon, là aussi, on s'est accroché très fort, profondément. C'est la doctrine. Et Saint-Père m'a dit la même chose. La doctrine. Alors si vous voulez maintenir la doctrine, il faut beaucoup de souplesse au plan liturgique. Vous n'êtes pas, c'est pas votre grâce liturgique, c'est pas votre grâce caractéristique. Votre grâce, c'est la grâce pour Saint Jean, c'est la contemplation et la doctrine. La chose la plus catastrophique pour l'Église aujourd'hui, c'est ce manque de doctrine. C'était très très net. Alors je dis, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, vous verrez. Vous verrez. Le Saint-Père avait dit nettement, il l'avait dit au Père Amer, il l'avait dit avant, il l'a répété au Père Amer. Il faut que Saint Jean n'hésite pas d'aller de l'avant. Et il faut le renouveau de vie religieuse, monastique, apostolique dans Saint Jean. Parce que le Saint-Père savait qu'on était suffisamment enraciné dans quelque chose de traditionnel, l'attachement à Thomas d'Aquin. On m'a jamais dit d'abandonner Thomas d'Aquin. Tu restes là. Je pense que j'aurais fait. Je crois que j'aurais pas obéi. Parce que c'était quelque chose que j'aurais pas obéi. Parce qu'on ne pouvait pas me le demander. Vous comprenez? En tant que dominicain, on ne peut pas me demander de quitter Saint Thomas. C'est impossible. C'est lié à l'ordre de Saint Dominique. Et comme je n'ai pas renoncé à l'ordre de Saint Dominique, je ne pouvais pas renoncer ni au rosaire. Et la bénédiction spéciale du rosaire, ni à saint Thomas. Les deux choses explicites, pour moi, c'est l'essentiel de la vie dominicaine. La somme et le rosaire. Le rosaire qui vous maintient dans tout proche des plus humbles, des plus pauvres. Et la somme qui vous maintient, qui vous met auprès des intelligences les plus évoluées. Vous voyez, évoluées dans quel sens? Les plus poussées, les plus exigeantes. Je crois que tout être intelligent devant saint Thomas est obligé de reconnaître que c'est quelqu'un de très intelligent. Et peut-être la plus grande intelligence qui a existé dans l'Église. C'est très possible. On verra ça au ciel. Tellement, plus on avance au début, on ne sait pas comment, je ne sais pas comment. Puis quand on avance, on s'aperçoit d'une belle simplicité. L'intelligence de Thomas, elle est relative à cette simplicité. Une simplicité étonnante, mais une simplicité qui n'est pas une simplification. Et puis, il fallait reprendre tout cela dans la lumière de saint Jean. Or, ce qu'il y a de particulier à la liturgie, c'est qu'elle implique tout l'élément de sensibilité d'un homme intelligent, consacré à Dieu. Oui, il y a deux espèces de sensibilité, celle qui vient d'en bas et celle qui vient d'en haut. Je crois que ça, c'est très important pour l'art. Il y a un art romantique qui vient d'en bas, il y a un art, je ne dis pas classique, mais divin, qui vient d'en haut. Et c'est peut-être là la distinction qu'il faut voir. L'art de, au point de vue peinture, on sait bien. Et quelque chose de tellement limpide. Ceux qui connaissent à Toulouse l'église des Dominicains de Saint-Dominique savent combien c'est assez extraordinaire, c'est assez unique. On ne peut pas nier qu'il y a, comme il y a un art cistercien, il y a un art typiquement dominicain, qui est l'art de l'intelligence au service de Dieu, passant à travers la sensibilité, mais qui vient de l'intelligence, d'en haut, tandis que l'art humain, ordinairement, vient d'en bas. C'est ça qui est très étonnant, je crois, quand on essaie de comprendre un tout petit peu ce qu'a été l'art pictural, l'art, il y en a très peu, jacobin à Toulouse, et aussi le grégorien dominicain n'a jamais été lié à celui des bénédictins. Était lié à celui des Chartreux. Et j'en ai eu l'expérience très nette, on me disait ça tout le temps, mais j'avais jamais expérimenté la chose. C'est quand j'ai dû donner des cours de philosophie à la grande Chartreuse, j'étais invité au chœur, à côté du père prieur. Et depuis longtemps, je n'avais plus entendu mes frères dominicains chanter. Et j'ai retrouvé chez eux la source. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a là quelque chose de très très particulier que je ne retrouve plus du tout maintenant. Ce que le Saint-Père attend de nous pour l'Église, c'est ce renouveau profond
pas, selon la scolastique. La scolastique est dégringole,
puisqu'elle regarde les conclusions,
alors que leur génétique monte est tout à fait différent. Il fallait et il faut faire la même chose au point de vue théologique.
Ils sont pas le mouvement de la lumière. C'est donc
le repos dans le mouvement. C'est ça qui est très curieux dans la lumière. C'est le repos dans le mouvement. Et c'est ce qui explique l'art de la peinture, l'art de la sculpture et de l'architecture. C'est la lumière. Tandis que le champ liturgique, c'est du côté de la théologie de l'économie divine. La somme théologique de saint Thomas, c'est beaucoup plus la peinture, la sculpture et l'architecture. Tandis que le champ liturgique, c'est le mouvement. C'est le pèlerinage, mais un mouvement, justement, un mouvement tout entier tendu vers la vision béatifique, vers la Jérusalem céleste. C'est un mouvement qui monte sous le souffle de l'esprit et qui montre cela. Et le champ liturgique de notre fin du XXe siècle ne peut pas être celui du Moyen-Âge. On peut être beaucoup plus proche de Frangelico que du champ liturgique du Moyen-Âge. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est la lumière. La lumière n'a pas beaucoup changé. Je crois pas. La lumière de l'île de France, qui était celle de saint Thomas. La lumière de Toulouse, qui était aussi celle de saint Dominique. Ça reste à peu près la même chose. Tandis que le mouvement a changé, alors là, hein. Le TGV, saint Thomas face du TGV. Mais ça, si, qu'est-ce que c'est que ça? On va tellement vite qu'on voit plus rien. Or, nous sommes le siècle du mouvement. Ce qui a le plus changé dans notre siècle, au point de vue milieu, au point de vue culture, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Et nous le sentons tous. Et tout le monde le dit, on n'a plus le temps d'assimiler. Parce que tout va très très vite. Au point de vue théologique de l'économie divine, n'est-ce pas? On comprend que plus on s'approche du terme, plus le mouvement est rapide. Plus le pèlerinage est rapide. N'avez qu'à penser, dans tous les pèlerinages qu'on fait à pied, c'est comme ça que ça se passe. On part assez vite. Au bout d'un certain temps, on est fatigué, on va plus lentement. Il y a un rythme de croisière qui est un peu lent. Puis quand on arrive à la fin, dernier effort. Et on va beaucoup plus vite. Et ça demande de cela, tout simplement. Plus on s'approche du terme, plus le mouvement est rapide. Il y a donc dans le champ liturgique quelque chose qui doit se manifester. On est à la fin du XXe siècle. Ça, on ne peut pas le nier. Et qu'on est sans doute très proche du retour de Jésus. Que tout semble indiquer. Il y a une hâte. C'est du reste pour ça qu'on reste debout. Je vous affirme, reprendre assis pendant l'office sur des malades, sur des vieux, si on n'en peut plus, je comprends. Mais ça va pas du tout. On a envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites sur la plage. Pas ça. On est en hâte. Et on doit avoir cette espèce de hâte du retour de Jésus. Et ça caractérise, je crois, très profondément la liturgie de la fin du XXe siècle. Au point de vue théologie, de l'économie divine, on ne peut pas nier ce facteur. Il y a là quelque chose de très très important à saisir dans notre sensibilité, dans notre champ. On sent bien. Ce n'est plus la note dominante du repos. Mais quand on dit la prière, c'est le repos, non. Ça, c'est de la niveau de notre pèlerinage. C'est... Il y a un rythme de pèlerinage dans la prière liturgique. Puisque nous sommes en marche vers la cité, vers la Jérusalem céleste. On est en marche vers la... Donc, la prière te demande n'est pas du tout à repos. C'est un cri. C'est le cri d'enfant dans le désert. Le cri d'enfant dans le désert, c'est pas le repos. Vous voyez que le petit Ismaël, il se reposait quand il criait. Et ceux qui l'écoutaient, ils devaient l'écouter aussi d'une manière très, très, très profonde. Je crois que la prière liturgique, ce n'est pas l'oraison. L'oraison, c'est ce qui annonce la vision béatifique. Ce qui annonce, c'est l'aurore boréale de la vision béatifique. C'est quelque chose qui est très très différent. Tandis que la prière liturgique exprime ce rythme particulier. Et je dis bien le rythme particulier du pèlerinage terrestre. Avec tous les accents de la prière de demande, de la prière de louange, des cris de souffrance, un appel à la paix au milieu des souffrances et des douleurs. Et en définitive, la grande prière liturgique, c'est la croix. C'est pas le repos, la croix. On veut le repos dans la prière liturgique quand il n'y a pas d'oraison. J'ai entendu dans ma vie religieuse, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. On m'a dit, ce qu'il y a de plus grand dans la contemplation, c'est la prière liturgique. Alors je dis non. C'est pas ce qu'il y a de plus grand. Si on est un bon théologien, l'oraison est commandée par la vision bénéfique. Et la prière liturgique est commencée par la louange extraverbum. Tandis que la vision béatifique est intraverbum. Les théologiens ont fait cette distinction. Et on doit la comprendre, cette distinction. Donc la prière liturgique n'est pas du tout commandée par la vision béatifique. Tandis que l'oraison, oui. L'oraison, c'est une anticipation de la vision béatifique. Dans l'obscurité de la foi. Mais c'est quand même cette soif de la vision béatifique. Mais ta soif est de la vision béatifique. Tandis que la prière liturgique, c'est... Elle demeurera éternellement, la prière liturgique. N'aurait plus de magnétophone à ce moment-là. Ce sera ni le grégorien, ni magdalite. Ce sera ce que ce sera. Il y aura une prière liturgique extra-verbum, des corps glorieux, sans instrument. C'est pour ça que c'est si beau, la prière liturgique sans instrument. Il n'y a que la voix, il n'y a que le cœur. Très bien, ceux qui prennent des instruments ne condamnez pas, ça soutient, ça permet de garder la note. Oui, ça permet de garder la note. Et est-ce que c'est l'essentiel? L'essentiel, c'est l'amour exprimé dans la soif de la vision béatifique, avec la grande louange, la grande demande, le grand appel, le cri d'enfant dans le désert. Et la prière liturgique doit être justement toujours liée à ce grand pèlerinage, théologie de l'économie divine, sous la conduite de l'Esprit-Saint, et cette proximité du terme qui est de plus en plus fort, qui fait que il y a un cri toujours plus profond. doit être le chant liturgique johannique. Je crois qu'on doit regarder le Magnificat. C'est Marie.
Faut le demander.
comment la force dans la souffrance met l'amertume. Et pour nous, tant qu'on est sur la terre, la force s'exprime toujours dans la lutte. La lutte réclame la force pour être victorieux. Autrement, on n'est pas vraiment fort. Le fortitaire dans la lutte implique une certaine souffrance. La lèvre aux entrailles, tout au palais. Et ça, c'est la parole de Dieu dans le cœur de Jean. C'est quand même quelque chose de très spécial. Alors, il faut mettre le Magnificat, et puis ce que nous est donné dans l'Apocalypse. Il y aurait aussi dans l'Apocalypse, pour montrer la force, le trompette, le bruit, le vacarme de l'eau. C'est tout ça fait partie de l'Apocalypse. Et la liturgie johannique a quelque chose d'apocalyptique. Elle doit avoir quelque chose. Pas tout le temps, ce serait fatigant. Alors il faudrait la douceur de Marie. Et puis l'Apocalypse. Vous voyez, vous retrouvez toujours douceur et force. C'est quelque chose de. Qui est à l'intérieur même du Magnificat. Mais ce que je crois être très important pour nous, c'est de comprendre que Marie a chanté le Magnificat avec un respect infini de la parole de Dieu. Elle mettait toute sa voix, tout son chant, tout son amour pour mettre en pleine lumière la parole de Dieu. Parmi vous, il y a des Frangelico au niveau de la musique. Découvrez ce que peut être le Magnificat johannique. On en rêve de ça. On aimerait tellement que le Magnificat, pour nous, ce soit comme un éclatement. Mais simple, pas du tout, avec dans une grande simplicité, un éclatement du cœur de Marie en disant sa soif de la miséricorde, de l'amour du cœur du Christ. Alors c'est le cri de la petite enfant du Père. Mais le cri de la petite enfant du Père dans le repos du Père. C'est cela, le chant du Magnificat dans le cœur de Marie. C'est quelque chose de très spécial. Je crois que par là, on pourrait découvrir ce qu'on m'a suggéré, et c'est très juste. On doit retrouver dans le Magnifique, dans la liturgie johannique, quelque chose de ce qui caractérise la sainteté de Saint Jean. Alors ne faites pas univoquement les trois dimensions de la sainteté de Saint Jean. Perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur, jeunesse. Eh bien, je crois que c'est très juste. La perspicacité de l'intelligence est la mise en lumière de la parole de Dieu. La mise en lumière de la parole de Dieu, c'est la perspicacité de Jean, l'émerveillement de Jean en face du Logos. Vous voyez, quand saint Thomas nous dit que toute parole de Dieu, toute parole divine dans l'Écriture est liée au Logos, le Logos divin est présent dans toute parole. sein de la liturgie. Joanne Nick. La pureté du cœur. Alors là, c'est Marie. Un chant qui réclame la pureté du cœur. D'habitude, chez les artistes qui ne sont pas de l'art chrétien et qui ne sont pas de sang.
Bien ces trois caractères, c'est pas étonnant, puisque Saint Jean c'est la peau.
avait des accents qui étaient particuliers. Ce qui montre très bien qu'au titan, il n'y a pas encore, du reste il ne faut jamais y être. Le jour où vous direz ça y est, alors vous répéterez, vous comprenez. Non, justement, il ne faut pas répéter. Il faut que chaque fois, on soit dans quelque chose qui est un appel. Il y a un appel qui se répète, ce n'est plus un appel. Je crois que la jeunesse est un appel qui est un appel. Et puis c'est tout. Il y a ça, quelque chose de spécial dans cette liturgie joannique, d'être un éclat, une limpidité, une simplicité profonde. On m'a posé alors quelques questions après, et je vais essayer d'y répondre. C'est ce que j'avais demandé, parce que ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'on se pose comme question. Comment ce chant de Saint Jean est apostolique? Il est apostolique dans la mesure où il nous donne une présence du Logos, de la parole. Vous voyez, il faudrait qu'après notre chant liturgique, tous ceux qui l'écoutent reconnaissent la splendeur de la vérité. Splendor veritatis. Et la splendeur de la parole de Dieu. L'éclat de la parole de Dieu. Je crois. C'est cet éclat de la parole de Dieu. Et donc qui donne la présence du Verbe. Jean, c'est l'apôtre du Verbe de Dieu, du Logos Toutéou. C'est l'apôtre de cela. Et donc, il faut que notre chant liturgique nous mette en présence de ce mystère. Ça va, parce qu'on a quand même les femmes, quand elles s'y mettent, elles arrivent à prendre du temps, je ne sais pas où. Ce que les hommes ne savent pas faire. Très curieux. Alors il faut que tout ce rapatrie continue. Il faut que les sœurs contemplatives soient complémentaires. D'autres choses, pas imiter, c'est différent. Voyez. Si la liturgie joannique implique le fortitaire et le suavitaire, il faut que pour les apostoliques, dans le suavitaire, il y ait le fortitaire. Et pour les apostoliques, dans le fortitaire, il y ait le suavitaire. Ce serait comme ça, je crois. Et les frères seraient portés par les deux. C'est normal que chez les sœurs contemplatives, le suavitaire dépasse le fortitaire. Et que chez les sœurs apostoliques, le fortitaire dépasse le suavitaire. C'est ça que je veux dire. Il y a une petite nuance particulière. Et peut-être que chez les frères, l'aspect perspicacité de l'intelligence soit particulièrement fort. Je dis ça, comprenez bien, je vous l'ai dit au début. C'est une recherche que nous faisons. On pose une question très délicate. Quelle est la place de Magdalite? Je l'aime beaucoup, Magdalite, de vieille date. Je la connais plus anciennement que n'importe qui d'entre vous. Magdalite, c'est comme toujours les génies, vous savez. Ils sont inimitables. Si on veut l'imiter, comme l'âne de la fontaine qui veut donner des grâces. C'est comme ça. C'est comme quand on veut. On peut s'inspirer de Magdalite. On peut s'inspirer de Frangelico. S'inspirer. On se met à leur école. Et on n'imite pas. C'est impossible d'imiter. Elle est trop géniale. Celui qui comprend pas. Alors c'est toujours comme les génies. Les génies, vous savez, il y a toujours certaines catégories de gens qui les comprennent et puis d'autres catégories de gens qui les comprennent pas du tout. C'est impossible. C'est vrai, c'est vrai. Je comprends très bien que certains ne comprennent pas du tout Magdalite. Je comprends très bien. Je m'accuse de l'avoir aimé et surtout d'avoir vu comment la solitude, petit couvent de la solitude, réalisait ça. Vous savez, au moment où tout le monde cherchait, on avait des choses, on entre à la solitude, à grands mots, et on écoute ce chant des sœurs de Magdalite. C'était tellement différent de tout le reste. Et tellement plus vrai. Et tellement plus beau. Alors moi, j'étais très saisi par ça. Très, très saisi. Première fois que j'ai entendu ça. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Voilà le renouveau. Alors j'ai eu peur de la séduction. C'est pour ça que je me suis tué, j'ai rien dit. Puis l'année suivante, je retournais. Comme ça, on va voir si la séduction demeure. Puis j'ai eu la même impression, tout de suite. Cette espèce de force et de douceur, mais de force qu'il y avait ce que sa mère ne cesse de demander. Il nous le demande au plan de la pensée, au plan de la théologie, surtout au plan de la théologie mystique, et nous le demande au plan de liturgie. Si nous étions un vieil ordre, on est enraciné dans un ordre quand même du Moyen-Âge, c'est déjà quelque chose, hein. On n'est pas une génération spontanée. On est enraciné dans l'ordre de Saint-Dominique, c'est déjà quelque chose. Mais Saint-Dominique a voulu une grande simplification. Il s'est tourné vers les Chartreux. C'est beau, du reste, hein, que la vie apostolique s'inspire de ce qu'il y a de plus secret, de plus contemplatif. Tout ça très beau. Et pour nous, je crois qu'il faut cette note de très grande simplicité. Parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir faire quelque chose d'aussi parfait qu'on voudrait. C'est le prof de l'apôtre. Il est dans la pauvreté. Alors la pauvreté, ce n'est pas la négligence. La pauvreté, ce n'est pas la saleté. La pauvreté, ce n'est pas la laideur. La pauvreté, ce n'est pas alors décliné. La pauvreté doit mettre en lumière ce qu'il y a d'essentiel, le nécessaire. Perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur, jeunesse. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas réaliser du Magdalite comme les sœurs de Grandbourg. On doit réaliser du Magdalite purifié. Purifié dans quel sens? Je veux dire appauvri, disons. Appauvri par notre exigence de vie apostolique. On s'inspire de Magdalite. Parce que je crois qu'elle a été donnée à l'Église pour ça. Pour nous. Mettre tout au service de la parole de Dieu.